Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur Radio RDL 103.5, vous écoutez Coup de théâtre de la Comédie de Colmar et ce matin je suis comme souvent le lundi matin avec Christine.
Oui, bonjour Francis
bonjour
au micro.
Bonjour Christine et avec notre très chère
Peggy
qui est avec nous ce matin et nous parlons ce matin de Jérémy Fischer.
Alors oui, alors c'est assez drôle effectivement puisque Francis, c'est son nom de famille.
Je m'appelle aussi Fischer, mais c'est un Fischer anglais, ça c'est pas un Fischer germanique.
Oui.
Et donc Jérémy Fischer qui est un spectacle que nous allons voir assez rapidement d'ailleurs.
Oui, puisque ce sera déjà le mercredi 26 novembre à 19h, il y a une représentation publique, donc mercredi 26 novembre à 19h, et puis jeudi 27 novembre à 14h15, une représentation scolaire ouverte au public aussi, et il y aura des représentations scolaires aussi les 27 et 28. Vous aurez compris que Jérémy Fischer, de l'auteur Mohamed Rouhabi, est un jeune public, mais nous allons vous expliquer que c'est aussi un spectacle pour les parents, donc peut-être à voir en famille, parce qu'il sera beaucoup question aussi de la parentalité.
Oui, de toute façon, là, beaucoup de jeunes publics sont pour tout le monde.
Voilà, tout à fait, oui, tu as raison.
C'est-à-dire, si l'inverse n'est pas toujours vrai, mais là, c'est la plupart du temps le cas, et nous vous le conseillons. De toute façon, il s'agit d'un travail de Thomas Reis, qui en est le metteur en scène. Thomas Reis, que vous connaissez sans doute tous, puisque c'est le directeur de l'Espace 110, et c'est aussi la compagnie des Rives de Lille. Thomas Reis, dont vous avez sans doute apprécié, puisque nous l'avons tous apprécié, La tristesse de l'éléphant, qui était déjà l'histoire d'un jeune garçon pas comme les autres, qui était à ce moment-là orphelin, qui a vécu le harcèlement et qui finalement trouve, la solution dans le cirque, c'est-à-dire qui va le révéler à lui-même et il rencontrera une jeune fille, etc., etc. Or là, nous sommes dans quelque chose d'assez proche, c'est-à-dire que là encore, on a affaire à un petit garçon qui va naître et qui est différent, n'est-ce
oui,
pas Christine ?
Oui, tout à fait. Et avant de raconter peut-être un petit peu l'histoire, c'est vrai que Thomas Reis s'explique assez souvent dans des interviews sur son goût du conte depuis qu'il est devenu lui-même père. Et là, c'est vrai, la rencontre avec ce texte de Mohamed Rouhabi, c'est vraiment ça. C'est qu'en devenant papa, il a pensé aussi que effectivement, quand on devient père, on doit accompagner son enfant et que c'est une expérience de l'amour absolument total et absolu. Et il faut savoir à un moment donné laisser l'enfant partir vers son propre destin et vers sa propre réalisation de lui-même. Or là, dans l'histoire de Jérémy Fischer, et Fischer, comme tu le dis en anglais, c'est pêcheur. Donc Jérémy est l'enfant d'une famille de pêcheurs et on va s'apercevoir que, en fait, il a une petite différence et dès l'échographie, c'est perceptible puisqu'il a la main palmée et qu'il est peut-être entre le monde des poissons et le monde des humains.
Alors il s'agit d'une métamorphose. Une petite remarque aussi, c'est que Thomas Reis a déjà monté la métamorphose de Kafka.
Il y a très longtemps.
Et il s'agit d'une métamorphose peut-être différente cette fois-ci que celle de Kafka, puisque dans le cadre de la métamorphose de Kafka, nous sommes dans une famille où celui qui se métamorphose devient un insecte subissant les terribles reproches et les contraintes de cette famille, alors que là c'est pas ça, c'est-à-dire au contraire la famille va l'accompagner dans cette métamorphose et dans cette transformation, ce qui est quand même assez extraordinaire. Peut-être c'est ce que nous sommes censés, quand nous avons des enfants, tous faire avec nos enfants. Et
oui, les accepter tels qu'ils sont et voilà. Les accompagner dans leur transformation, si transformation il y a, mais c'est traité de façon très symbolique et sous le mode d'une sorte de conte. Donc il y a en fait parmi les personnages, donc il y a Jérémy Fischer qui est le narrateur de l'histoire et qui revient sur ce qui s'est passé, donc il y a des souvenirs, et puis il y a la maman qui s'appelle Jody, et vous retrouverez dans ce rôle Laure Werkman que vous avez vu il y a peu de temps dans Croire aux fauves, et donc c'est elle qui incarne la maman Jody, et il y a d'ailleurs un passage central où il va être question de sa découverte de l'enfant dans l'échographie.
Que nous allons peut-être vous lire. Que c'est bien de rencontrer le texte lui-même de cette façon-là. On parlera après de la manière dont il aura été mis en scène, en tout cas d'après les images que nous avons vues.
Oui, puisque effectivement nous n'avons pas encore vu le spectacle. Alors, donc c'est le moment où Jody est avec le médecin, et ça commence par Jérémy Fischer qui raconte de son point de vue ce qui s'est passé ce jour-là. Ce jour-là, j'ai tourné le premier film de ma carrière. J'étais le seul acteur et bon Dieu, je peux dire qu'avant de commencer, j'avais le trac. Je n'avais pas de texte à dire, mais j'ai improvisé un petit spectacle à ma manière. Mon père, lui, était resté dans la salle d'attente. « Je n'aime pas aller chez le docteur quand je suis pas malade », disait-il tout le temps. « Ça porte malheur. »
Voilà enfin les premières images.
« C'est extraordinaire. »
« Vous avez vu ? Je crois qu'il est réveillé. Nous avons de la chance. Oh, regardez un peu cette cabriole qu'il nous fait. Et là, hop là, vous avez vu ? Et là encore, ma parole, c'est un vrai numéro de cirque. »«
On dirait qu'il vole. » »«
En réalité, il nage. »
Vous voulez dire comme un poisson ?
Oui, c'est ça. D'ailleurs, il est entouré de liquide et il respire grâce à ça. Vous voyez ?
C'est génial comme système.
Oui, c'est assez bien fait, je dois dire. Ah, oh, vous avez vu ?
Ah si ? Mais on dirait bien un...
Oui, je crois qu'il n'y a pas de doute. C'est un garçon.
Cet homme qui va être content. Qu'est-ce que vous faites ?
Je voudrais vérifier quelque chose.
Rien de grave.
Non, rassurez-vous, détendez-vous. Tenez, allongez-vous complètement et respirez. Jody s'allonge. Le médecin s'affaire autour de l'appareil. On voit nettement à l'écran les mains de l'enfant. Jésus-Marie !
Qu'est-ce qui se passe ?
Écoutez, vous allez vous redresser tout doucement.
Vous n'êtes pas très rassurant comme docteur.
Excusez-moi, mais c'est incroyable. Je n'ai jamais vu une chose pareille.
Écoutez, docteur, je sens que je vais tomber dans les pommes.
N'ayez pas peur, regardez, c'est génial.
Mais où ? Je ne vois rien.
Regardez ses mains. Là, vous voyez maintenant ?
Mais qu'est-ce qu'il a autour des doigts ?
Je ne sais pas, c'est de la peau. Certainement, car je ne vois aucune lésion. Il a les doigts palmés, oui, palmés, c'est ça. Comme les nageoires d'un mammifère marin ou d'un poisson. Mais c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'il a l'air à l'aise, voyez-vous. Il est dans son élément.
Docteur ?
Oui, Madame Fischer ?
Vous voulez dire que mon fils est un poisson ?
Non. Pas un poisson, bien sûr. Vous avez vu, il ressemble à n'importe quel enfant. Il n'y a pas de doute là-dessus, je suis formel, mais certains éléments me permettent d'affirmer, enfin, qu'il possède certainement les caractéristiques propres à ceux d'un... Comment dire ? D'un poisson.
Docteur ?
Oui, Madame Fischer ?
Je crois que je ne me sens pas bien.
Ne bougez pas, je vais aller chercher votre mari.
Docteur ?
Oui, Madame Fischer. Elle tombe raide sur le lit. Oh mon Dieu, quelle découverte, Monsieur Fischer ! Monsieur Fischer ! Mais c'est inouï ! C'est incroyable !
Il sort précipitamment, noir.
Voilà, c'est une scène, la scène de découverte de ce petit homme... Dans le liquide amniotique de sa maman qui nage déjà comme au cirque. Alors effectivement, j'imagine que nous allons voir un moment de danse parce que Thomares travaille comme il l'avait fait d'ailleurs avec La Tristesse de l'éléphant, où il a travaillé avec des marionnettes, avec des théâtre d'ombre avec des images. Bon, là, il s'agissait de la BD. Et là, maintenant, il travaille avec de la musique, de la danse. Et puis, d'après ce qu'on a pu voir du travail qu'a fait Antonin Bouvray, formidable,
une scénographie,
formidable scénographe,
oui.
Eh bien, on est littéralement, nous aussi, dans le liquide amniotique que nous voyons au travers de l'échographie, non ?
Oui, alors d'après effectivement les images que nous avons vues, il y aura une reconstitution d'une certaine façon de cette atmosphère de l'échographie et nous serons à ce moment-là comme à l'intérieur du ventre de la mère, puisque la scénographie d'Antonin Bouvray est un bifrontal avec une structure en bois très très belle et des sortes de toiles aussi. Et tu parlais, Francis, d'utilisation d'ombre, il y aura cela. Et puis d'autres médias aussi pour recréer, peut-être des médias plus numériques, pour recréer cette atmosphère de l'échographie. Et nous allons effectivement vivre à l'intérieur du monde liquide de Jérémy Fischer.
Alors, cette métamorphose est un peu aussi un retour en arrière, parce que la vie, nous savons que la vie a commencé dans l'océan, que nos ancêtres ont été les poissons, et que d'ailleurs, le papa de Tom va l'expliquer, c'est-à-dire que cette différence qui va se marquer de plus en plus, au lieu, finalement, de devenir un facteur de rejet complet, est aussi une manière de dire que nous avons, avec toutes les autres formes de vie, une profonde complicité et une profonde identité aussi.
Oui, et une véritable connexion. Et de ce point de vue-là, cette question de l'animalité qui est une sorte de fil rouge, là, depuis le début de la saison, revient aussi, même dans Jérémy Fischer, c'est-à-dire notre lien avec le monde animal et le fait que le vivant, en général, est en connexion très forte, en fait.
En tout cas, c'est le vivant qui fait ce que nous sommes, puisque oui, c'est un peu ça, ce que l'ensemble des philosophes du vivant ou des penseurs du vivant, pour les appeler comme ça, nous ont transmis, qu'il s'agisse de Bruno Latour ou de,
oui, de Baptiste Morisot,
pour dire que nous sommes ce que nous sommes parce que les autres nous ont fait l'ensemble, le milieu, le monde dans lequel nous vivons.
Oui.
Et du coup, au fond, le poisson, parce qu'il y a quand même une différence radicale entre vivre dans l'eau et vivre dans l'air, et vivre sur la terre. Parce que respirer sur la terre n'est pas la même chose qu'être dans l'eau. Et entre on connaît la chanson, hein, entre le petit oiseau qui
oui,
est...
un petit oiseau.
Qui est sur la terre.
Le petit poisson, c'est d'amour tendre. Mais comment s'y prendre?
Si une relation amoureuse, ça va pas le faire.
Quand on est dans l'eau.
Et là aussi, eh bien, il est vraiment... Sa métamorphose, c'est pas du tout une métamorphose en animal, quel qu'il soit, ou même en plante, mais c'est une métamorphose dans quelque chose qui est totalement différent, c'est-à-dire c'est une différence énorme.
Oui, oui, et d'ailleurs ça pose question aussi au plan théâtral et au plan scénographique, comment effectivement faire percevoir la différence entre les deux éléments, c'est-à-dire la terre. Alors on peut penser que dans la scénographie, la dimension bois renvoie à cela, et comment recréer l'effet de liquidité, c'est-à-dire que sans doute c'est là que le système des ombres et les couleurs qui vont peut-être venir avec des moyens numériques, vont essayer de représenter aussi l'élément liquide. D'ailleurs, le livre en lui-même de la pièce de théâtre de Mohamed Rouhabi est très joliment illustré, oui, dans sa réédition. Et il y a tout un imaginaire de la terre et de l'eau, des éléments qui sont très présents dans la pièce.
Oui, mais parce que il est vrai qu'en général, on ne tombe pas amoureux du poisson, beaucoup plus facilement. Les liens sentimentaux s'échangent avec des chiens, des chats, ou même...
Des mammifères. Alors d'ailleurs, mammifères, ça pose question, parce que est-ce que... Bon, il est question, bien sûr, le texte dit la poisson, mais il y a aussi à d'autres moments dans le texte l'idée que ce soit plutôt un petit baleineau, donc un animal qui est plus proche de nous, d'une certaine façon,
ouais,
que le poisson pur.
En ce sens-là.
En ce sens-là.
Ouais, ouais. Mais bon, finalement, écoutons voir une chanson d'Aaron, qui justement indique ce lien sentimental entre
un poisson
un
rouge.
Humain et un poisson rouge.
1, 2, 3, 4. My goldfish died today. Little heart in a bubble. A ray of light in my kitchen. The only living piece of my mind. Since you crossed the line, Mr. K. Mr. K. They told me not to be sad. It is just a matter of time. What if you have stopped time? What if I'm stuck on yours, Mr. K. Mr. K. Instead of mine, not really united anymore. But one thing is for real, a fish is a better friend than a human. That's for sure. My goldfish died today. My goldfish died today. Mr. K. Mr. K. I name it Jack the Ripper. Psycho underwater. The only living memory is showing how you stabbed me.
Vous êtes sur Radio RDL, vous écoutez Coup de théâtre de la Comédie de Colmar, et avec Christine ce matin, nous parlons de Jérémy Fischer.
Oui, un texte de Mohamed Rouhabi, une mise en scène de Thomas Reiss, le directeur de l'espace 110 à Ilzac, que vous connaissez bien à Colmar, puisque beaucoup d'entre vous ont vu le précédent spectacle, La tristesse de l'éléphant.
Et cela se jouera, n'est-ce pas, mercredi
26 novembre. Ouais, à 19h. Le jeudi 27 novembre à 14h15, il y a une représentation scolaire qui sera ouverte au public pour ceux qui sont disponibles. Et il y aura encore deux autres représentations scolaires, puisque c'est un jeune public, mais un jeune public qui peut se voir par tout le monde et en famille.
Ouais. Alors toujours, puisque Thomas Reiss, depuis un moment, travaille là-dessus, toujours il s'agit de la différence, c'est-à-dire de ce qui se passe pour un petit humain quand il n'est pas tout à fait comme les autres, la manière dont on peut le harceler, dont on peut le mettre de côté, dont on peut le pousser d'ailleurs au pire. Et là, il ne s'agit pas exactement de ça, puisque le petit qui va naître se transforme donc très lentement, se transforme donc très lentement en poisson. De toute façon, nous sommes dans le monde de la pêche, des pêcheurs, et donc aussi des poissons. Et dès le début, d'ailleurs, cela s'ouvre avec un moment assez difficile, c'est assez curieux. Parce que
oui,
le père est sur un bateau, et puis un des jeunes
apprentis ou pêcheurs parmi les plus jeunes,
peut-être, qui finalement s'était attaqué à un baleineau, eh bien, va être pris dans une tempête et puis disparaîtra dans la mer.
Oui, alors c'est très étrange parce que c'est au moment où le filet de poisson doit se déverser sur le bateau, enfin où on décharge le filet, le jeune garçon voit un animal un peu étrange qui s'avère être un baleineau et ce baleineau va le mordre. Or, vous le savez tous, une baleine n'a pas de dents. Et suite à cette morsure et à cette libération, d'une certaine façon, de ce poisson qui n'est pas vraiment un poisson, eh ben le jeune homme va être emporté dans la mer.
C'est d'ailleurs le seul moment, je dirais, violent de l'ensemble de. De l'ensemble.
Alors on peut
peut-être pas. Oui,
on peut discuter un petit peu de la violence parce que tu parlais de ce qui peut se passer quand quelqu'un est différent. Il y a quand même aussi de la tentative d'exploitation.
Ah oui, voilà, il y a
des qualités de nageur du petit Jérémy Fischer, qui à un moment donné va susciter la convoitise d'un directeur de piscine qui va s'imaginer qu'il pourra créer une sorte de marine land autour des talents de nageur. Et d'ailleurs l'enfant, ça lui plairait beaucoup de ne pas continuer à aller à l'école mais de devenir une star de la natation, et donc il y a aussi une discussion comme ça sur le fait que quand on est différent, il peut y avoir aussi des tentations d'exploitation. Il y a une forme de...
Oui, tu as tout à fait raison, mais il y a autre chose encore, il y a le cauchemar.
C'est-à-dire, oui.
On est très étonné, mais on va pas tout dévoiler.
À un moment donné, il y a
un cauchemar. Mais pour revenir sur le moment assez violent du début, c'est-à-dire de la disparition de l'humain dans la mer et du retour du poisson sur la terre. C'est-à-dire, il y a déjà une circulation au fond, au début,
oui.
Entre la mer et la terre, en ce sens-là. C'est-à-dire, nous sommes tous des poissons
qui s'ignorent
et qui proviennent de si loin, c'est-à-dire des débuts même de la vie. Alors là où c'est intéressant, en tout cas, ça forme un tout petit peu un élément du récit, c'est la manière dont vous avez ceux qui veulent exploiter la situation. Parce que très rapidement, comme ça se passe aujourd'hui, on sait que cette famille va avoir un enfant qui ressemble à un poisson.
Ça se diffuse.
Et du coup, il y a des moments assez amusants d'ailleurs, où il y a un représentant de l'aquariophilie qui vient vendre des aquariums. C'est assez incroyable. Parce que
dès qu'on sait qu'effectivement l'enfant se transforme en poisson, ça suscite aussi le désir de vendre des choses. On est dans un monde capitaliste et d'emblée, c'est une opportunité. Et on alerte les parents en disant qu'à un moment donné, il faudra bien que s'ils veulent continuer à suivre leur enfant, ils s'équipent. Et c'est assez incroyable. Et c'est pas le choix exactement que vont faire la famille.
C'est pas exactement le choix de la famille. Et c'est ça qui est assez étonnant. C'est que là, il y a vraiment, vraiment... sans doute quelque chose de différent de ce qu'on sait, parce que nous tous, d'une manière ou d'une autre, quand nous avons des enfants, peut-être quand nous n'en avons pas, il y a quelque chose qui se passe aussi qui est comme ça, c'est-à-dire nous nous investissons dans nos enfants parce qu'ils sont aussi quelque chose de nous. C'est-à-dire, nous voulons qu'ils soient comme nous, ou nous aimerions que notre narcissisme profond se réalise quelque part dans ces enfants. Comment peut-on accepter en tant qu'humain, que notre enfant ne soit pas humain. C'est quelque chose de terrible, d'autant plus qu'on aimerait souvent qu'il réalise tout ce que nous n'avons pas réalisé, et que d'une manière ou d'une autre, il soit même plus que nous, qu'il soit ce que était notre idéal du nous ou du moi.
Et là, dans cette histoire,
les parents vont être capables de dépasser cette situation-là. C'est quand même assez incroyable.
Oui.
Et alors, là, c'est quelque chose de très fort, je trouve, en tant que conte, c'est que les parents puissent se détacher de l'image qu'ils peuvent avoir de leur enfant, laquelle image, en général, est un miroir d'eux-mêmes.
Oui, et on s'aperçoit que l'amour devient plus fort que tout, puisque ça va même aller, et je veux pas trop divulgâcher non plus, jusqu'à une véritable séparation. Parce que l'exergue de la pièce, c'est quand même cette histoire est pour les enfants seuls ou qui le deviendront un jour. Alors, Effectivement, ça a l'air très beau de se dire on accepte la différence, mais bon, il y a toujours dans la, quand même dans l'idée quand on est parent, qu'à un moment ou à un autre viendra une forme de séparation et qu'il faut laisser l'enfant s'épanouir et suivre son propre chemin.
Les parents sont-ils capables de résister au narcissisme qu'ils projettent sur leurs propres enfants?
Oui.
C'est pas si évident que
non,
ça.
Non, et parfois, mais alors parfois quand même, enfin là, bon, je me permets de parler aussi peut-être de mon propre ressenti quand j'ai eu un enfant, parfois quand même aussi la perception de l'altérité, c'est-à-dire que de la rencontre avec quelqu'un d'autre est aussi très très forte. Et on peut, bien sûr, il y a la fragilité de l'enfant au début qui demande un accompagnement, mais on peut aussi avoir la révélation vraiment d'une puissance de personnalité, même parfois très tôt, et de cette idée qu'on a vraiment rencontré quelqu'un d'autre et qu'à un moment donné, il faut juste le laisser devenir ce qu'il a à devenir.
Oui. Et c'est là où la différence ici est vraiment la question même de l'altérité, c'est-à-dire être capable de voir que ces enfants, dont on pense tellement qu'ils sont les nôtres, eh bien, sont autres. C'est-à-dire qu'ils ont leur propre vie à mener, et c'est peut-être la beauté de l'ensemble de ce texte. Alors, ce texte est joué d'une certaine façon parce qu'il se joue dans l'ensemble du public et avec le public jusqu'à un certain point, donc il nous concerne tous.
Oui, c'est-à-dire que nous allons nous identifier et être là en miroir aussi, les uns pour les autres dans la structure bifrontale, mais aussi avec les personnages. Alors d'ailleurs, le public colmarien va retrouver dans ce spectacle un certain nombre d'acteurs qu'il connaît déjà. J'ai nommé Laure Werkman, mais vous allez retrouver aussi Fred Cacheux, qui est un comédien bien connu en Alsace, c'est un ancien du TNS de l'équipe de Julie Brochaine, mais qui a joué beaucoup sur le plateau de la comédie.
Ainsi que Philippe Cousin.
Tout à fait.
Au début, d'ailleurs, lors de la direction antérieure.
Oui, qui a joué dans plusieurs spectacles. Et puis, on verra donc aussi une danseuse, Virginia Dan. Et puis, on retrouve des gens qui sont dans l'équipe de Tomares depuis longtemps, comme Nicolas Fongfett. Il y a vraiment quand même du monde aussi sur ce petit travail.
Jean-Pierre Verdaillant aussi.
Oui, et donc ce sera une formidable équipe d'acteurs que vous pourrez retrouver dans ce très joli spectacle. Et encore une fois, ce n'est pas parce que c'est estampillé plus ou moins jeune public, c'est tout public à partir de 12 ans en fait. Et donc c'est un spectacle qui concerne autant, je pense, les adultes et les parents que enfants eux-mêmes.
Il n'y a qu'une représentation, à vrai dire. Si vraiment vous avez pris goût à ce que nous avons dit ou à ce que peut être ce spectacle.
Oui, et puis si vous connaissez un peu le travail de Thomas, Thomares.
Voilà, ne manquez pas ce spectacle le mercredi 26 novembre à 19h.
Oui, il est plein de poésie, il est plein de féerie. Je pense que théâtralement, ce sera une belle, très belle expérience.
Voilà,
aussi.
Et encore une fois, vive le théâtre et bonne semaine.
Et à lundi prochain.
Et Peggy, merci beaucoup. Oh,